Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Florence Nightingale à ses tourments, alors qu'elle se trouve à la croisée des chemins. La vie mondaine ne lui inspire plus rien. Elle ne souhaite pas se marier. Elle ressent un désir impérieux de rallier la vocation de ses 17 ans, aider les autres. Seconde partie, la dame à la lampe. À l'été 1845, Florence annonce à ses parents qu'elle sera infirmière. Jusque-là, elle n'avait encore rien formulé de précis, mais le moment est venu de s'affirmer. D'autant qu'on ne se lasse pas de lui présenter, quand l'occasion s'en présente, tel ou tel homme qui, lui indique-t-on avec insistance dans son entourage, pourrait faire le mari idéal. On lui fait rencontrer un certain Richard Monckton Miles, un gentleman qui possède tout pour lui plaire, y compris les idéaux humanistes. Mais elle reste de glace. Tombé amoureux fou de Florence dès leur première rencontre, l'infortuné jeune homme finit par comprendre que c'est en vain qu'il lui fait la cour et qu'il ne peut que renoncer et disparaître. Lorsqu'un homme lui plaît, Florence s'esquive ou œuvre pour que l'amour se fasse amitié. Elle reprend ses voyages qui l'amènent en Grèce et en Égypte. Jusqu'en 1851, où qu'elle se trouve, elle revit le même embrasement que lors de ses 17 ans. Sa vocation la poursuit. À chaque fois, c'est le même appel, Dieu et les pauvres. Elle fuit l'Angleterre, qui, en raison de son rang social, lui refuse les emplois d'infirmière qu'elle sollicite. « C'est comme si j'avais voulu être fille de cuisine », écrit-elle. « J'ai tout essayé. Voyager à l'étranger, visiter des amis charmants, tout. Mon Dieu, qu'adviendra-t-il de moi ?» De retour d'un séjour en Égypte, elle s'arrête en Allemagne, à Düsseldorf, où elle se met en contact avec un orphelinat. Nouvel appel. Malgré l'opposition radicale de sa famille, ayant quitté cette Angleterre où on lui interdit de répondre à sa vocation, eh bien ici, en Allemagne, elle entreprend dans l'Institut une formation d'infirmière. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, l'âge où le Christ commença sa mission. Maintenant, plus d'enfantillage. Plus d'amour, plus de mariage. Maintenant, que le Seigneur me fasse connaître seulement sa volonté, ce qu'il attend de moi. Ô Dieu, ta volonté, ta volonté. » L'expérience est une telle réussite que le fondateur de l'établissement lui demande de rédiger un mémoire en anglais pour faire connaître sa structure. Elle a trouvé comment agir. Elle se sent enfin libre. Son séjour à Düsseldorf est l'occasion pour elle d'exprimer la souffrance de toutes les femmes qui aspirent à agir à l'égal des hommes. Les femmes aspirent à l'éducation, pour apprendre à enseigner, pour apprendre les lois de la pensée humaine et la façon de les appliquer. Et sachant combien, dans l'état actuel des choses, cette éducation ne peut être qu'imparfaite, elles aspirent à acquérir de l'expérience, mais de façon suivie et systématisée. Chez Florence Nightingale, comme chez toutes les femmes qu'anime un noble idéal, le mysticisme fait bon ménage avec les choses concrètes. Alors qu'elle ne cesse d'adresser à Dieu des prières passionnées, elle s'attache à interroger un aspect négligé des soins donnés aux malades, l'hygiène. Partout où elle est passée, c'est le même constat. Ce qui fait défaut, ce n'est ni la bonne volonté des infirmières, ni la qualité des médicaments. Non, ce qui manque cruellement, c'est la salubrité de l'espace dédié aux malades. Lors d'un voyage à Paris, elle se rend à l'hôpital Lariboisière, et là, c'est la révélation. Voici un hôpital où l'air circule, grâce au vaste corridor qui sépare les chambrées. La lumière pénètre dans les chambres par de vastes fenêtres. Florence, qui a acquis de solides connaissances en statistiques, comprend là pourquoi la mortalité est moins forte à la Riboisière que dans les autres hôpitaux d'Europe. Pendant ce temps, ses parents, face à la détermination de leur fille, ont fini par déposer les armes. Ils ont accepté sa vocation. L'aval d'une famille prestigieuse et fortunée n'est pas inutile au destin d'une âme forte comme celle de Florence. En 1853, elle prend la direction d'un centre de soins à Londres. Au milieu de l'année, elle devient surintendante d'un institut de soins aux femmes malades, un poste sans salaire. Elle ne vit que par la pension confortable que lui verse son père. À ses compétences d'infirmière, elle joint un sens aigu de l'administration. Elle dresse des bilans quotidiens de l'état du site et de ses malades. Elle organise le corps infirmier de telle sorte qu'il soit subordonné systématiquement au corps des médecins. Mais sa fermeté, lorsqu'un conflit éclate, est telle qu'elle parvient à infléchir les décisions de la direction et à imposer son point de vue. C'est un événement tragique qui va permettre à Florence d'acquérir une notoriété nationale. Début 1853, éclate la guerre de Crimée. L'Angleterre et la France se jettent à tombeau ouvert dans ce conflit où il s'agit de souffler à la Russie la possibilité d'étendre son influence sur l'Occident. Les premiers mois de la guerre apportent des nouvelles effrayantes. Les soldats anglais, avant même d'avoir combattu, sont décimés par les épidémies de choléra et de typhus. Florence n'hésite pas une seconde, elle se porte volontaire et part sur les champs de bataille. Dans le camp de transit de Varna, il y a près de 60 000 soldats. Près de 12 000 d'entre eux sont déjà mourants. Florence Nightingale projette d'envoyer au plus vite un groupe d'infirmières sur place. Pour la première fois dans l'histoire, on invente l'aide humanitaire. Et l'auteur de cette idée est une femme. Florence, pragmatique comme à son habitude, prend soin de rassembler des infirmières appartenant à diverses confessions religieuses. Par exemple, elle sait que de nombreux soldats sont des Irlandais catholiques. À Londres, les journaux se montrent sceptiques. Que viennent faire des femmes dans la boue et le sang? Ainsi que cela a déjà été évoqué au début du premier épisode, Florence Nightingale déploie en Crimée son énergie à soigner et à consoler. Elle panse les blessures du corps et de l'âme. Armée de sa torche, elle devient la jeune fille à la lampe, celle qui fait ce que le chirurgien ne pourra jamais faire, raccommoder les plaies du cœur. Au chevet des malades, elle lit les lettres qu'ils reçoivent d'Angleterre. Elle écrit sous la dictée celles qui sont envoyées par les soldats. Depuis longtemps, elle a compris que le médecin dans le corps médical a depuis longtemps remplacé ce dieu qui était le patron des infirmières d'antan, qui toutes étaient religieuses. Pour éviter tout trouble interne en cette période de conflit, elle s'applique à organiser son groupe pour qu'il rende systématiquement compte de ses actions aux médecins. Elle crée une blanchisserie, ouvre une salle de lecture et un espace de jeu pour les convalescents. En un mois, elle parvient à faire remplacer les literies, à faire attribuer à chaque soldat des vêtements neufs et à améliorer la qualité de l'ordinaire. La guerre dure plus longtemps que prévu. La réputation de Florence Nightingale grandit en Angleterre. Elle est parvenue à faire modifier le règlement des armées en période de campagne, à faire modifier notamment toutes les règles d'hygiène dans les hôpitaux militaires. La presse relaie ses exploits. Les anecdotes rapportant son quotidien sur le front touchent à la légende. On raconte qu'elle parcourt toutes les nuits 6 kilomètres dans les couloirs de l'hôpital, munie de sa lampe. Les soldats qui la croisent se jettent à genoux pour embrasser son ombre. Alors qu'elle est encore en Crimée, on crée à Londres un fonds Nightingale destinée à former des infirmières et des aides-soignantes. Florence ne découvre cette institution qui porte son nom qu'à son retour. Une fois revenue en Angleterre, elle ne peut se réjouir des résultats de sa mission. La campagne a coûté la vie à 20 000 soldats, dont 16 000 sont morts sans combattre par le seul fait des épidémies, un désastre. C'est l'heure du bilan. Florence redevient la statisticienne de génie qui l'a conduite à changer les règles de soins en temps de guerre. Elle produit un rapport de 1000 pages dans lequel elle entreprend une refonte complète de la médecine et de l'hygiène durant des conflits armés. Dans son projet, elle envisage pour la première fois une école spéciale pour former les médecins militaires. Quel que soit le volume des connaissances scientifiques que semble posséder l'étudiant lorsqu'il arrive à l'armée, elles ne sont guère révélatrices de ses compétences pratiques. Mais comme l'entrée dans l'armée lui donne immédiatement l'occasion d'appliquer son savoir et que des patients lui sont très vite confiés, il paraît nécessaire de prévoir une école où il puisse acquérir ses compétences entre le moment où il revêt l'uniforme et celui où il est incorporé dans un régiment. De fait, la première école de médecine militaire du Royaume-Uni est créée en 1860 à Fort Pitt. 2 ans auparavant, Florence Nightingale est devenue la première femme membre de la Société royale de statistique britannique pour son utilisation de graphiques dans le cadre des soins de santé. Partie dans le quasi-anonymat, revenue dans la gloire, Florence entreprend de faire de la formation des infirmières le but de sa mission. Elle a fort à faire, mais elle ne part pas de rien. En Angleterre, comme partout en Europe, on assiste à un renouveau des congrégations religieuses féminines dédiées aux soins des pauvres et des malades. Elle dispose donc d'une pépinière d'instituts dans lesquels elle peut appliquer son projet. La première tâche est de faire de l'infirmière une personne compétente. On sait que les ordres religieux hospitaliers dans le passé attiraient beaucoup de jeunes femmes misérables et ignorantes. Il faut lutter contre les idées reçues et l'opposition du corps médical. Songez qu'à l'époque, John Fleet South, chirurgien à l'hôpital Saint-Thomas de Londres, déclare que selon lui, les infirmières n'ont pas besoin d'autre formation que celle des femmes de chambre. L'école qu'entreprend de fonder Florence Nightingale le 9 juillet 1860 doit être indépendante de l'hôpital, mais rattachée à lui. Indépendance relative, donc. Mais il faut que les stagiaires puissent bénéficier de l'enseignement des médecins, tout en restant sous la direction exclusive de la surveillante générale de l'école. Elles n'ont de compte à rendre qu'à la directrice de l'établissement. Florence Nightingale a aussi exposé sa théorie de l'apprentissage, qui met l'accent sur l'acquisition de compétences pratiques. L'observation nous indique comment est le patient. La réflexion, ce qu'il faut faire. La formation, comment il faut le faire. La formation et l'expérience sont bien entendu nécessaires pour nous enseigner aussi comment observer ce qu'il faut observer, comment penser et ce qu'il faut penser. Durant 10 années, les difficultés ne manquent pas. Mais en 1887, soit 27 ans après sa fondation, l'école peut se vanter d'avoir formé plus de 500 infirmières. À 67 ans, Florence a réussi son projet au-delà de toute espérance. Des écoles Nightingale ouvrent bientôt partout dans le monde. Elle avait déjà été décorée de la Royal Red Cross par la reine Victoria en 1883. En 1907, elle devient la toute première femme à recevoir l'ordre du mérite. Épuisée par des décennies de combats, Florence doit s'aliter en 1897. Elle est victime d'une forme de surmenage. Aujourd'hui, on parlerait d'un burn-out. Cependant, elle va continuer pendant des années, depuis son lit, à diriger les réformes qui restent à accomplir pour la bonne marche de ses écoles. Des années où, vaille que vaille, Elle utilise ses dernières forces au service de sa vocation. Pour son 90e anniversaire, elle reçoit un message personnel du roi George V d'Angleterre. Elle meurt quelques mois plus tard, le 13 août 1910, dans sa maison de South Street à Londres. Plus d'un siècle après sa disparition, médecins et infirmières du monde entier utilisent encore les méthodes de soins développées par Florence Nightingale, la dame à la lampe, dont la vie passée au service des autres n'eut jamais qu'un mot d'ordre, aider. C'est la fin de ce double épisode consacré à Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt !